icône pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
En Chine, elle s'interroge sur la force de résilience de ses patients à l'hôpital. En France, lui se demande comment deux êtres ont pu cohabiter dans la même personne, le même esprit. Deux films pour scruter l'humain et ses contradictions. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Mais bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Qui est Karim Dehaes, ce jeune écrivain engagé au succès annoncé, ou bien son alias Arthur Rimbaud qui poste des messages haineux? Bonjour Laurent Cantet.
Bonjour.
C'est l'interrogation au cœur de votre huitième film, Arthur Rimbaud, inspiré librement de l'affaire Mehdi Mekla du Bondy Blog. Une plongée, ce film, dans les réseaux sociaux, ce qu'ils disent de notre époque, de sa violence et de sa vitesse. Et c'est bien pour cela que nous l'avons invité. Bonjour Dominique Cardon.
Bonjour.
Sociologue, professeur et directeur du Media Lab à Sciences Po Paris, autour notamment de la question du numérique et sa place dans nos sociétés. Et nous attendons votre lecture de ce film Arthur Rimbaud sur les écrans mercredi prochain. Dans un hôpital en Chine, à Shanghai, qui accueille plus de 20 millions de patients chaque année, elle a choisi 5 familles entre souffrance et résilience. Bonjour Yéyé.
Bonjour.
Réalisatrice de ce film, Achis, un instantané de la Chine aujourd'hui, ce rapport d'un peuple à la maladie, la mort, la vie, il sort aussi mercredi prochain. Enfin, les films de la semaine, entre un ennemi et une jeune fille qui va bien, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Ah, voilà. Venez. Ça va, ça se passe bien, vous êtes content?
Oui, super.
Bon, je vous félicite parce que l'émission était très très bien.
Très content que ça vous a plu.
Venez, je vais vous présenter.
Merci.
Merci beaucoup. Je vous présente Claude, vous vous souvenez?
Enchanté.
Merci pour votre roman.
Merci, ça me touche.
Je vous en prie.
C'est possible de prendre un selfie?
Avec plaisir.
Merci.
Karim Dehaes, un jeune écrivain congratulé après sa prestation télé et son roman. Un quart d'heure de gloire, vite effacé par des tweets ressortis à cette occasion, des messages haineux sur les réseaux sociaux. C'est le thème de votre film, donc Arthur Rimbaud. Je le disais, Laurent Cantet, un film inspiré librement de l'affaire Mehdi Mekla en 2017. Il a ressorti d'une série de tweets racistes, antisémites, homophobes, misogynes. Vous les suiviez à la radio, ces deux garçons, et quand vous avez appris cette nouvelle, vous avez été effaré.
Oui, parce que c'était très difficile pour moi de recoller les morceaux, de me dire qu'il s'agissait de la même personne. Mmh. Et ça m'a plutôt plongé dans une espèce de vertige face à la complexité de ce personnage, qui m'a donné envie du coup d'y réfléchir un peu plus et d'essayer, alors non pas, je pense, de le cerner complètement, parce que je pense qu'il y a une vraie complexité et que cette complexité-là, elle m'intéresse, qu'elle est presque le sujet du film. Mais en tous les cas, de le suivre dans ce moment de basculement où on passe d'un succès certainement un peu précipité aussi à une mise au banc presque instantanée. Quoi.
Quelle nuance peut apporter un film par rapport à tous les débats, les commentaires qu'on a découverts ici et là?
C'est vrai que j'avais lu beaucoup de choses qui avaient été écrites sur l'affaire, puisqu'on va parler d'affaire très rapidement. J'avais l'impression que chacun le regardait sous un angle très particulier. Alors il y avait des analyses très sociologiques, d'autres très psychologiques, d'autres très politiques, et que au bout du compte, je n'arrivais toujours pas à me représenter ce personnage. Et j'avais l'impression que le film, dans la mesure où forcément on passe par une incarnation plus que par une analyse, pouvait peut-être espérer cerner quelques aspects qui nous donneraient des clés pour le suivre.
Dominique Cardon, sociologue, on vous a demandé, vous a invité, et puis vous demandez de regarder ce film. Vous vous êtes penché sur la question. Vous avez dû suivre cette affaire à l'époque.
Mais absolument, absolument. Et ce qui est vraiment la force du cinéma, là, par rapport au débat qui a eu lieu dans l'affaire réelle, c'est qu'elle est simplificatrice, elle est binaire, elle est excluante. On a eu une une mise au banc immédiate sans avoir beaucoup d'éléments du dossier. Il suffit de 3 tweets pour qu'immédiatement se forme une sorte de bannissement.
Ouais, hein,
et donc le cinéma, il vient nous remettre le réel, la complexité, la trajectoire, nous replacer les acteurs de cette affaire et évidemment nous dire que derrière cette affaire, il y a une trajectoire sociale en réalité.
C'est un
transfuge de classe.
Ce qui est paradoxal, de confier à la fiction le soin de rétablir le réel.
Oui, c'est pour ça aussi que j'aime bien le cinéma.
C'est une mission importante. Moi, je pense de la fiction de nous dire en fait que le réel a une complexité et en fait on le voit bien parce que c'est l'état du spectateur, une ambivalence. Voilà, nous remettre dans un état d'incertitude quand tout le monde est aussi sûr de soi et avec des avis absolument tranchés. Je trouve que c'est une fonction extrêmement importante de la fiction.
C'est un chapitre que vous abordez dans vos cours à Sciences Po, ce genre de cas.
Ben oui, parce qu'en fait, il relève là, si on veut le réanalyser du point de vue des réseaux sociaux, mais oui. En réalité, en fait, c'est la question centrale est celle de la trajectoire sociale. Hein. Mais les réseaux sociaux, c'est à la fois un espace, c'est ni un espace privé ni un espace public. C'est un espace intermédiaire dans lequel les formes de l'énonciation sont extrêmement souples. Elles peuvent être bavardes, elles peuvent être poétiques, elles peuvent être injurieuses, elles peuvent être problématiques. Évidemment, ce qui arrive au personnage qui va réussir et qui va être adoubé par l'élite littéraire du pays, c'est que tout d'un coup, on va le rappeler à des conversations qui ont eu lieu dans un espace qui n'était pas exactement la forme de l'espace public dans lequel les propos doivent être tenus, policés, argumentés et très légitimement contrôlés en réalité. Et donc on va lui rappeler à ses écrits antérieurs ou à ses formes d'énonciation antérieures. Et comme sur les réseaux sociaux, on a une absence de contexte en réalité. Et donc en réalité, il y a des énoncés qui sont prononcés sans qu'on sache exactement si on peut en attribuer la responsabilité aux intentions réelles du locuteur. Et puis il y a une mémoire, parce que c'est beaucoup de l'oral, mais en réalité cet oral il est écrit, et donc il suffit rétrospectivement, parce que là le clivage il est pas simultané en fait, il est dynamique dans la trajectoire du personnage, c'est qu'on va lui rappeler à ses écrits antérieurs pour provoquer le bannissement.
Le film se déroule donc sur un concentré de 2 jours, Laurent Cantet, Arthur Rimbaud, et vous l'avez construit un peu comme ça, c'est-à-dire avec une petite série de mini-procès, à commencer par celui de l'éditrice d'Arthur Rimbaud.
Il vient de publier un livre qui pose la question de l'immigration en France, qui renvoie violemment et profondément la responsabilité politique sur ceux qui en ont la charge, et son auteur se comporte comme le pire des extrémistes. Alors oui, on parlera de Karim, ça c'est sûr, mais il faut pas se leurrer. Plus personne ne parlera du livre.
Enfin, Karim a créé un personnage malade, qui commente le monde de la pire des façons dans le pire des endroits. Outre le fait que ce soit pas le seul à le faire à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, Karim reste un auteur jeune et bourré de talent. Et la provocation, c'est dans l'air du temps.
C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale.
Voilà, ça commence. Moi je pense qu'il faut qu'on prenne ça comme une opportunité et envoyer Karim partout avec un discours béton.
Mais depuis quand l'art doit être poli, gentil ? Je suis prêt à défendre ça, moi. Et puis, il y a de quoi être content. Je crois que mes messages touchent enfin à leur but. Ce soir, Arthur Rimbaud est mort.
Laurent Cantet, la puissance des mots imprimés effectivement dans un livre ou quand ils s'affichent sur un écran, effectivement, comment penser en 140 caractères ?
Moi, ça me semble être le principal écueil des réseaux sociaux. Ouais. C'est cette simplification de la pensée qu'ils impliquent. L'autre jour, j'entendais un auteur dont j'ai oublié le nom en disant que les questions les plus intéressantes sont celles à laquelle on ne peut pas donner de réponse.
Oui, j'ai entendu ça aussi.
Je pense que c'est une formule que je reprends à mon compte très, très volontiers parce que, et qui est justement à l'antithèse des réseaux sociaux où en quelques caractères il faut être remarqué, c'est-à-dire où on parle en punchline, où on cherche évidemment souvent la provocation aussi, et où du coup on peut aller chercher aussi des réponses rapides à des questions qui demanderaient beaucoup plus de réflexion que ça.
D'ailleurs, vous avez pratiqué un exercice extrêmement périlleux avec vos co-scénaristes, c'est d'imaginer et d'écrire les tweets, ceux qui apparaissent à l'écran, ceux qu'on a en voix off, par exemple, celui-là, gauche bien pensante, admirez votre création. Il est très intéressant, celui-là.
Alors, enfin, moi, je m'inclus évidemment dans cette gauche
bien
pensante, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous très heureux de constater que ce genre de trajectoire peut exister, que notre monde est peut-être moins segmenté que ce qu'on imagine, et que voilà, Karim, il est là pour nous le prouver. Sauf que j'ai le sentiment que ces jeunes gens souvent issus de l'immigration d'ailleurs et de la banlieue qui sont piégés par ce genre d'histoire font suffisamment peur pour qu'on ne leur pardonne rien. Et qu'à ce moment-là ils soient beaucoup plus jugés que certains hommes politiques par exemple qui peuvent dire des choses tout aussi monstrueuses et à qui on continue à tendre des micros.
Il y a une question qui parcourt le film en dehors de celle pourquoi t'as écrit ça, c'est tout le monde savait. Ça c'est une question super importante, Dominique Cardon. C'est vrai que ça dépend du contexte. Ils ont été entendus par des jeunes gens qui en ont ri et qui tout d'un coup à cause de ce contexte.
Des jeunes et des moins jeunes.
Et des moins jeunes. Et qui, en fonction du contexte, vont réagir complètement différemment.
Et oui, c'est aussi pour ça que, du coup, on a le sentiment, et c'est très très bien
mis dans le film.
Vu dans le film, ouais. Le sentiment qu'on va lui faire payer quelque chose qui pourtant était su.
Oui.
Mais qui est une transformation de la trajectoire de l'énonciation. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi dans les réseaux sociaux. C'est finalement la maîtrise du langage dominant. Et qu'en réalité, il est probable que les formes d'expression racistes, antisémites, absolument condamnables, qui ont été faites, l'ont été faites, et c'est très bien dit par le frère dans une très belle séquence du film, c'est la rage. Voilà. Et d'une certaine manière, il est sorti de son carré, mais sorti de son milieu social en exprimant cette rage, à la différence de sa mère, qui elle s'est toujours tue, elle le dit, et que cette rage est un processus comme ça d'individuation qui va avoir lieu
sur les raisons, mais c'est sur le fait que les gens aient adhéré à ça à un moment et plus à un autre.
Parce que là on va rentrer dans la polémique typique des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va mettre en contradiction le personnage qu'on a soi-même adoubé puis rejeté dans l'espace en utilisant quelque chose qui était là, qui était à disposition pour le condamner.
D'où ce deuxième procès, celui de ses amis parisiens, et qui se lève une autre question.
Tes messages là, moi je les trouve juste insupportables en fait.
Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans?
Mais il n'y a pas que lui qui le voit pas, le troisième degré. T'as vu tous les tweets des fachos?
Non mais oh, y a pas que les fachos qui comprennent pas.
C'est pas ce que je voulais dire. C'est moi non plus, je suis pas d'accord.
Non mais c'est vrai Karim, d'une certaine manière, personne te connaît sur les réseaux. Non, c'est ce que tu penses, mais les autres, ils font comment?
Bah, je sais pas. Arthur Rimbaud, déjà, ce pseudo ridicule. Mes deux livres, mon engagement depuis toujours, ma web TV. Je sais pas, ça fait pas le poids face à ces tweets, non?
Mais attends, tu distribues un mode d'emploi avec tout ça? Arrête, putain. Je sais pas, c'est pas un peu mégalo de penser que tout le monde te connaît? De croire que tu es tellement pur que personne pourrait se tromper sur ton compte?
Mais arrêtez, vous les connaissiez tous, ces messages.
Non, mais c'est pas ça le problème.
Si, c'est ça le problème, justement. Et là, vous vous en lavez les mains.
Ouais, note que moi, ça m'empêche pas de te défendre, quand même.
Quand même?
Bah oui, quand même, Karim. Tous tes messages, là, sur Charlie, sur les terroristes, sur les juifs, sur les PD, c'est chaud, à vous.
Ouais, c'est chaud, hein, grave. C'est super chaud. Tu sais quoi, je sais même pas quoi te répondre, en vrai. Je suis même quasi sûr qu'il y a certains de ces messages qu'on a écrits ensemble, tu vois. Et là, ils sont en train de me lâcher et vous me regardez crever la bouche ouverte sans rien faire, d'accord?
On peut pas défendre l'indéfendable.
Non mais arrête, Yann. T'es sérieux, là? C'est quoi, là? C'est un tribunal? Il a pas été accusé jusqu'à présent.
Ouais, bah l'histoire, elle est pas finie et je serais surpris que personne ne porte plainte.
Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien, ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener, c'est ça? Chacun à sa place.
Vas-y, arrête, là, c'est bon, t'es ridicule. Puis je sais très bien, t'habites jamais qu'à 3 stations de chez moi, donc ton truc de banlieusard...
Ouais,
là,
mais c'est 3 stations qui comptent, tu vois.
Laurent Contet, ses amis, eux, les amis de Karim, ils ont trouvé leur place dans la culture. Et en fait, cette histoire, ça les dérange dans leur parcours.
Bah, je pense que c'est une scène qui montre un peu la fragilité du transfuge, justement. Je pense que quand on ne se sent pas tout à fait à sa place... tout à fait accepté. Là où on est, on se méfie effectivement de tout ce qui peut mettre en danger votre nouvelle situation. Et tous ces jeunes gens qu'on entend là sont des jeunes qui ont, grâce à la télévision, grâce à la mode, grâce à l'art, réussi à trouver leur place, mais une place dont ils connaissent la fragilité.
Oui. Oui.
Et l'autre élément qui m'intéresse dans cette séquence, c'est la façon dont Karim revendique ce troisième degré. Qui effectivement, je pense, a cours de manière très systématique sur les réseaux sociaux. Que les jeunes, j'ai fait beaucoup de débats avec des scolaires, avec des adultes, et j'ai senti une différence de décodage. Des tweets en fonction de la génération qui les appréhende. Et ce troisième degré, effectivement, demande certainement pour certains un mode d'emploi que d'autres trouvent de manière assez évidente. Quoi. Et là, il y a aussi, du coup, une source de malentendus très très grande. Quoi.
C'est idiot de parler en pourcentage, mais j'ai l'impression qu'il y a 50% chez lui de ressenti et 50% de provoque.
Oui, mais
on
peut dire que c'est toutes ces phrases qu'il a prononcées au troisième degré, etc. Mais voilà, une fois qu'il a été reconnu, il essaye de les recoder en essayant d'avoir. Et il y a un moment, il dit c'était punk. Voilà,
oui.
C'était punk. Mmh. Hein, de le recoder comme avec une sorte de licence de la liberté créatrice. En réalité, c'était pas exactement moi qui parlais, c'était une voix que je devais parler comme un geste de provocation qui pourrait être reconnu dans le milieu artistique. Mais simplement, vu sa trajectoire sociale, vu son origine, on ne lui reconnaît pas cette liberté de création, donc on le ramène à sa condition originelle de transfuge.
Moi, après, ce que je veux pas non plus, c'est qu'on se dise que l'exonère de la responsabilité qu'il y a à écrire tout ça.
C'est ça que j'ai tenu
à avoir à afficher ces tweets irrecevables comme ça à l'écran, qui est la force des mots et la responsabilité qu'il y a à les avoir écrits, soit continuellement rappelée aussi aux spectateurs. Dire, si c'était un petit faf qui écrivait ces choses-là, ça ne m'intéresserait pas. Par contre, avoir cette juxtaposition d'intelligence et de la plus grande bêtise,
c'est ça le problème,
me semblait être
et
important.
Et c'est ça qui est vraiment très très fin dans le film, c'est-à-dire qu'en fait il ne prend pas parti, en fait il montre la situation, il montre l'ambivalence et l'ambiguïté, il nous met tous dans une situation très très compliqué, parce qu'effectivement, ses propos sont irrecevables.
Autre nuance encore dans ce film Arthur Rimbaud, c'est le discours tenu avec sa petite amie, on peut dire une bobo parisienne. Allez.
S'il te plaît, dis-moi que c'est pas toi qui écris ça. Je comprends rien, là. Faut que tu m'expliques.
C'était de la provocation. C'est un personnage.
Arrête de te cacher.
Je vais pas me justifier avec toi, Léa. Tu me connais, tu sais que je pense pas ça.
Je sais pas. Je sais pas si je te connais. Pourquoi t'as écrit ces trucs? C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête? Dont tu ne parles jamais? Comment ça peut cohabiter comme ça dans un même cerveau?
Laurent Cantet, on dit souvent aux metteurs en scène qui font le même film toujours, j'ai l'impression que...
Désolé.
Bah non, au contraire, c'est une... Vous creusez un sillon.
Non, c'est une constante.
Non, c'est une introspection de l'âme humaine.
Ouais.
Je comparerais vraiment à l'emploi du temps, qui sont deux personnages très mystérieux, chacun dans leur fonction, dans leur vie, et vous tentez d'entrer là-dedans, dans ce raisonnement, sans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre Jean-Claude Roman et Karim D, il y a quand même une...
Il y a un mystère
dans les deux.
Il y a effectivement une constante qui est d'essayer de regarder des personnalités doubles qui me permettent de fouiller des zones d'ombre qu'on n'a pas forcément envie d'aller scruter, quoi. Et puis des gens qui sont aussi, du fait de leur histoire, très médiatisés. Et certainement fabriqué et modifié par cette médiatisation-là.
Passionnant film, Arthur Rimbaud, oui. Il sort mercredi prochain parce que le voyage continue après Paris, justement, derrière ces trois stations. Arthur Rimbaud, mercredi prochain. Merci. Ce brouhaha, c'est celui que l'on entend sur les premières images de ce film H6. Votre premier long métrage, il y a des centaines de patients devant les panneaux d'affichage des différents services de l'hôpital. Toutes spécialités confondues, tous complets. L'hôpital de Shanghai accueille chaque année 20 millions de patients. Vous avez choisi 5 familles et leur destin qui va se jouer avant d'entrer dans le cœur de ce film. Moi, je voudrais qu'on parle 2 secondes des prémices. Votre séjour à l'hôpital en France, un jour, où vous prenez conscience que vous ne réagissez pas comme les autres patients. Vous êtes déterminé, jamais abattu, et vous mettez peut-être ça sur le compte de votre côté chinois.
Je m'en doutais. J'ai dit ça vient de moi, qui parfois j'étais un peu différent, ou ça vient de moi, je suis une chinoise qui a cette réaction. Donc j'ai des doutes et j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis je me suis dit, à force de vivre à l'étranger, j'avais oublié beaucoup de choses. Je me suis rendu compte en ce moment-là, j'ai dit j'ai envie de rentrer et chercher aussi quelque chose que j'avais oublié ou quelque chose que je ne connais pas encore.
Pour comprendre un peu, pour faire comme une photographie des Chinois, derrière tous les clichés qu'on peut avoir, l'hôpital vous semble une scène de théâtre intéressante pour parler des Chinois et de la Chine?
C'est pas forcément un théâtre pour moi. L'hôpital, ça ressemble à un microcosme de la société aujourd'hui.
Oui.
C'est là, on voit l'organisation comme un gros machine, mécanisme qui roulait très vite. Et puis, on voit comment les gens réagissent. Et en plus, comme dans un cas dans l'hôpital, ils sont dans une grande difficulté. On voit aussi, dans un très court temps, comment il est réagi, adapté rapidement.
C'est ça, votre propos n'est pas de dénoncer le système médical chinois, mais au contraire d'aller dans le contre-champ, d'aller vers les patients et de décrire ce que vous appelez le pessimisme joyeux.
C'est quoi ça, ouais. Parce que c'est vrai, je parle pas de l'hôpital, je plus parle de l'humanité.
Ouais.
Pessimiste joyeux, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, mon adolescent qui a aussi comprendre le humeur, ouais. Humour, oui. Et fatalisme,
oui.
Et puis l'amour est oui. Dépendant. Oui. Et là, c'est quand je vois qu'est-ce que s'est passé devant mes yeux, et c'est mis beaucoup plus clair, et qui voit, c'est pas une dépression, en fait, c'est une genre d'optimisme derrière un fin d'amertume.
Amertume.
Ouais, 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 amertume. Et donc les gens ils sont dans une situation très très compliquée et ils sont conscients. Et ils se moquent d'eux-mêmes, ils se moquent des autres, ils se moquent de la mort et des difficultés. Oui.
Mais ce qui résiste, c'est la cellule familiale.
C'est ça, c'est ça, on voit la dépendance et l'un à l'autre, non seulement familial, on voit les gens dans l'hôpital, dans le couloir, et ils s'aident et l'un aux autres. Ça crée une nouvelle manière de dépendance. Et puis, on voit rarement la vraie tristesse profonde. Enfin, on voit la tristesse traîner derrière, mais ils sont toujours au sourire. On voit qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir.
On les voit pleurer, je vais vous dire un truc idiot, mais on voit rarement des Chinois pleurer aussi, même dans les films. Et là, bon, vu les situations très dramatiques, il pleure devant votre caméra. Et...
Oui. Si, on pleure, parce que c'est des moments difficiles et on pleure. Mais et là, c'est des...
Mais sans misérabilisme, sans pathos.
Ça. Il y a une dignité.
Oui. Oui.
Et le pleur, c'est la première réaction. Et puis tout de suite, on voit... Il est allé voir, ils sont pragmatiques, ils voient comment je trouve les solutions pour enlever cette tristesse.
Il faut raconter le contexte dans lequel vous avez tourné ce film. Vous étiez en deuxième équipe d'une série, c'est ça?
Oui.
Et c'est comme ça que vous avez repéré vos personnages?
Tout à fait, oui. C'est en fait, parallèlement tourné avec une série, et première semaine, j'ai observé, comme j'ai déjà 4 mois, un an avant, avoir l'expérience,
ouais.
J'ai prévoyé qu'est-ce que s'est passé, puis je m'organisais, au bout de 10 jours, j'ai tous mes personnages, comment je suivais, filmé, organisé.
Donc vous étiez deuxième équipe, à la fois vous faisiez votre propre film.
C'est ça, en fait, c'est... Et ça m'aide beaucoup, en fait.
Oui.
Parce que, déjà, et j'ai eu beaucoup plus facilité à demander de l'autorisation. Et aussi, ça me donnait la chance aussi cache, enfin, derrière de cette équipe qui m'organisait beaucoup plus facilement. Sinon, je pense avec la seule équipe tournée, j'aurais avoir beaucoup plus de difficultés à organiser. À la même temps, comme j'ai en charge de l'autre, je profite de mon situation. Quand j'ai fait le planning, j'ai mis priorité de mon tournage, mais ça ne va pas dire que je laisse tomber l'autre côté. Je m'arrange pour quand il a besoin et pas j'ai gêné à eux et j'ai donné ce qu'eux qu'ils veulent et je l'ai donné.
Vous avez été très bien. Il y a, parmi ces cas, un énorme cas de figure absolument dramatique. Un cas de conscience chez cette femme, l'épouse d'un paysan qui est tombé d'un arbre et qui s'est cassé la colonne vertébrale. On lui propose une opération qui coûte 100 000 yuans. J'ai regardé, c'est l'équivalent de 13 000 euros, autant dire une fortune colossale. Sans être sûr qu'il va survivre ou alors ne pas l'opérer, le faire partir en ambulance et il peut mourir aussi. Mais c'est un cas de conscience énorme sur cette femme.
Ouais. C'est là, on voit les deux en fait réagir différemment, mais tous les deux ont pensé histoire de famille, les enfants. Donc, et c'est ça aussi directement. Au départ, on voit c'est un problème d'argent. Après, on voit c'est au-delà de ça.
Oui.
C'est un choix. Comment mourir? Comment profiter? Comment là, on voit, ils voient l'essentiel de la vie et l'importance pour eux. L'enfant, c'est le moteur. C'est pour l'enfant, il est venu à Shanghai et puis il est blessé. Et là, il dit, pour enfant, finalement, il fait son choix aussi basé sur enfant. Il préfère mourir, enfin, profiter de la situation avec l'enfant, passer son dernier moment de vie, même il y a risque. Là, il aura eu l'occasion. S'il choisit l'obérer, le risque, c'est qu'il ne voit plus jamais son enfant, il meurt pendant l'opération.
Et puis, il y a aussi de l'humour dans ce film et un homme très joyeux qui chante. Ce père de famille, Yéyé, sa femme est morte dans un accident de voiture, sa fille est hospitalisée, il n'a pas dit à sa fille que sa maman était morte, et il chante. Je crois qu'il y a une de vos assistantes qui a dit « mais il est fou celui-là ». Sauf qu'il est tout sauf fou.
Ouais, en fait, même il y a des gens qui pensaient « c'est moi qui l'ai fait chanter » ou certains qui pensaient « il devient fou ». Et c'est là, en fait, quand je lui chantais, et je regarde ses yeux, je vois un profond tristesse derrière. Oui. Là, il est en train de se soigner les autres aussi, il est en train d'établir. Et il devient mon personnage tout de suite. Oui. Donc je vois, c'est pas fou. C'est une manière, en fait, de comment il est guérir. Il reprend aussi parce qu'il y a une grande responsabilité. La priorité, c'est sa fille, guérir le plus vite possible. Oui. Donc,
voilà. Il chante dans la salle d'attente où tous vos personnages se croisent. Les gens supportent ces chansons parce qu'ils chantent pas très très bien. Supportent ces chansons et comprennent aussi finalement les autres.
Il comprend avec un gentillesse, il s'en fout, ça fait rigoler des gens. C'est ça, on voit les Chinois trouver chaque moment dans la vie quotidienne qui s'amuse.
Dominique Cardon, vous avez vu le film ?
Absolument, admirable.
Admirable.
Admirable. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en fait, souvent on filme l'hôpital et on y filme l'héroïsme des médecins et les patients. Et là, moi, j'y ai vu les familles, en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que les familles rentrent constamment à l'hôpital et du coup, on revoit tous les fils qui se tissent. Des liens familiaux, de l'argent, du rapport au devenir des enfants, etc., qui se nouent, et avec effectivement des attitudes face à la maladie, à la possibilité de la mort, qui sont assez différentes, comme ce père extraordinaire, parce que c'est pas, moi je l'ai pas vu comme du déni en chantant, alors que la situation est si tragique en réalité, mais comme une autre manière de tirer une ficelle de la vie, en réalité, pour essayer, il chante pour essayer de soigner sa fille, en fait, hein, comme il le dit tout le temps. Et donc, on voit ces liens se recomposer et que l'hôpital est inscrit complètement dans la vie sociale et dans les décisions des familles. Mmh. Et ça, on le voit si rarement et c'est évidemment extrêmement fort.
Ouais. C'est vrai, ce mot déni, il y a des gens qui me posaient des questions. Est-ce que c'est un déni? Je dis non, c'est pas vraiment ça. Non. C'est aussi, on voit, parce que lui, il vient de classe moyenne. Ouais. Et tout se passe non-dit. Ouais. Non-dit, c'est la protection. qui n'est pas mis mal à l'aise en face, qui passait les choses fluides. Donc pour moi, c'est un non-dit, c'est son manière de faire. Non-dit, et dans ce cas-là, on doit exprimer à l'autre manière. C'est pour ça, parfois, on voit ces mises en scène, parce qu'ils sont tellement... C'est pas exprimé et tout ça. Et d'un coup, on sent qu'il est exprimé fou. Et il est chanté fou, ça aussi, parce que c'est cohérent, en fait.
Le problème central aussi, c'est l'argent. Parce que ça coûte très cher, tous ces soins. Et tous ces gens qui viennent de partout, beaucoup de la campagne, n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des services qui se paient, en plus. L'aide-soignante se paie, le coiffeur, etc., tous ces services extérieurs. Mais les familles sont là, elles apportent même leur carton en salle d'attente et elles restent des nuits entières là-bas.
Ouais, et en fait, ça, je l'ai dit, j'ai pas imposé des points de vue dans mon film, mais c'est vrai, d'argent, c'est pas le sujet de mon film.
Non.
Et donc, c'est beaucoup de points de vue des côtés bibliques français qui m'a posé la question. Oui, parce que j'ai vu des bibliques américains.
Oui, parce que c'est une merveilleuse défense et illustration du système français.
Oui, parce qu'on est. C'est ça, on voit après les différentes cultures.
On préfère être spécialisé à Paris, si vous voulez, qu'à Shanghai, par exemple.
Quand même,
plus confortable.
On en sera un peu rassuré, nous.
Voilà.
Trop le monde, parce qu'après le film, il y a certains Français qui disent « Ah, je préfère être hospitalisé en France, parce qu'il y a plus d'immunité, c'est plus rigolé et léger et tout ça. Oui. » Donc, histoire d'argent, pourquoi parce que... Et par exemple, cette histoire de paysan qui nous expliquait plus clairement quel est le rapport d'argent. Et c'est vrai, il y a des points de vue du refrain et je suis content parce que c'est ce que j'ai voulu. Donc après, votre propre expérience, propre culture, chacun retirer ce qu'on s'en dit. Et quand je vois cette histoire, je vois c'est une question de choix. Chercher l'importance, c'est les choix libres. Aussi au fond. Donc on voit la question d'argent, en fait finalement il fait son choix pas à cause d'argent du tout. Les familles sont prêtes à aider. Donc l'argent ça devient un moyen, c'est pas une solution. Donc c'est au-delà de l'histoire d'argent en fait.
Et vous vouliez qu'on ait une vraie image finalement des Chinois, hein, un peu plus complexe que celle qu'on peut avoir d'habitude, du côté un peu tendre, drôle et à la fois qui est cruel aussi, tout cela à la fois.
Ça dépend.
C'est complexe.
Complexe. J'ai juste envie d'en aller à l'autre, parce que j'ai vu beaucoup d'images, enfin, j'ai vécu longtemps à l'étranger, et on voit les images de la Chine, c'est un peu biaisé parfois.
Oui.
Et là, vraiment, j'ai envie de montrer telle, qui a une vraie vie, et on vit avec, et puis on retire les images, les autres. C'est moi, j'ai envie juste d'en aller un témoignage. Et puis, pour les gens, retrouver leur image chinoise, je donne le maximum sans juger. Comme ça, on comprend aussi les Chinois, c'est des humains comme les autres.
Voilà. Achis et Arthur Rimbaud sortent tous les deux mercredi prochain. On vous les recommande.
Allez les voir.
Chaudement, tous les deux, magnifiques, Laurent Cantet et Yéyé. Vous restez avec nous. On se retrouve après Drake pour les sorties de ce mercredi. I'm working on time. Said you belong to the streets belong to me. It's like home to me. It's like home to me. I tatted your passport up, now it's looking like a arm sleeve. Just know that was all me. And when you see Chanel, I wish that's how you saw me. That shit you tell Chanel, I wish that's how you call me. That raw shit, that honesty, yeah. You know I love you more than all them niggas put together. And it's a lot of niggas trust, I put the list together. And it's a lot just to assume we're meant to be together. You gotta live that shit for real, you can't just say whatever. You can never tell nobody that you held me down. If it was ride or die, then you should have been there right now. So I don't care how you're yelling at me. How much I gotta spend for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down? All the things I've done up until right now. I need 1,000 pages just to write it down. Writing down these feelings, it's been overdue. Don't know how many pens it's gonna take to get over you. How much I gotta pen for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down? Tried to run it back 100 times. The world is yours, but the city's mine. Can't believe you put it on your mother's life. You told me it was ride or die. Cause you're not here somehow, you're still alive. True enough, I knew you from the other side. I set my expectations way too high. Yeah.
would listen to the lies that you would tell all night. Angel eyes, but you been giving me hell all night. I know the book that you would write is a tell some, not a tell all. Just to make sure you well off, you would sell all rights. Why does your ex think we beefing? Is that man all right? That nigga can't even look at me, he fell off twice. And I'm back popping. I still remember the day I saw you. I was on your ass like back pockets. Niggas love to hate, but what is that stopping? So much shit I wanted to say straight to your face. But you're so two-faced that I don't know which face. You're the reason we'll be going separate ways. You're the reason we cannot communicate. It's not the things you say, it's what you don't say. I'm not in your way, in your own way.
Oui, pendant Drake, Yeye nous disait qu'elle avait beaucoup aimé le film de Laurent Cantet. Bien sûr. Mercredi, donc dernier, sont sortis plusieurs films, et notamment Adieu Paris d'Edouard Baer. Un vieux bistrot parisien pour le nommer la Closerie des Lilas. À table, 8 grandes figures, ils étaient les rois de Paris. 8 vieux amis qui se détestent et qui s'aiment, et soudain, un intrus. Edouard Baer est nostalgique des bandes, comme celle de Belmondo, Rochefort, Marielle, alors il en imagine une autre. Artificiel en réunissant Arditi, Lecoq, Berroyer, Murat, Damien et en guest pas invité Benoît Poulvorde, le deuxième film dans le film au bar. Sans compter celui qui ne veut pas en être, c'est Gérard Depardieu. Si j'ai pas le droit de radoter à mon âge, dit l'un d'eux, ça sert à quoi de vieillir? Le film tient dans cette réplique et dans une surenchère, un petit peu de cabotinage, excepté pour Poulvorde et Edouard Baer, dans une trop courte apparition d'ailleurs. C'est dommage d'être passé à côté d'un Husbands à la française, malgré quelques jolies répliques comme celle-là. Le pianiste de Bar nous donne du sentiment à l'ennui. Cela sonne comme une note d'attention au film, mais pas vraiment abouti.
Oui, on a l'impression d'une série de numéros d'acteurs, un peu comme pouvait le faire Bertrand Blier à une époque. Il y a des mots d'auteur, des mots d'acteur, des jeux d'acteurs, et puis du cabotinage. Le problème, c'est que cette espèce de crépuscule des cabots n'a pas la force, par exemple, d'un film de Julien Duvivier en son temps, avec Michel Simon et Louis Jouvet, par exemple. C'est-à-dire qu'on reste quand même à la surface des choses. C'est pas trop méchant, c'est pas trop, ça reste assez sage, finalement. Tout se passe dans ce bar chic de la capitale. On est un petit peu entre soi, et ben nous on reste à l'extérieur du bistrot.
Irradié, le nouveau film de Ritipan qui creuse le même sillon depuis 30 ans sur le génocide cambodgien dont il a réchappé. Il y a eu après S21, la machine de mort Khmer Rouge, l'image manquante, les tombeaux sans nom, et cette fois Ritipan se penche de nouveau sur le génocide mais en l'inscrivant dans l'histoire du crime de masse, Laurent. Très ambitieux.
Oui, absolument, là on est vraiment dans le siècle passé, oui. Ce siècle tragédie, comme disait Aragon, le crime de masse, génocide, apocalypse nucléaire, bref, tous les visages de la barbarie qu'on a parfaitement à l'esprit. On sait l'exigence de Ritipan, et là, je dirais que ça franchit une étape supplémentaire dans une sorte de ce que j'ai vécu moi comme une sorte d'installation cinématographique avec un écran coupé en trois en permanence. Il y a parfois une seule image vue trois fois, parfois trois images différentes, et avec effectivement toutes ces images qu'on a déjà beaucoup vues, bien entendu, mais elles sont à nouveau convoquées par Ritipan, et de façon évidemment très lourde, très importante. Mais ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ça n'est pas un discours purement mémoriel. On sent bien que sa volonté à lui, c'est de nous dire en quoi ces images sont toujours présentes, en quoi elles pèsent tout autant sur nos vies, et peut-être aussi sur notre avenir. C'est dire l'importance de ce que l'on a peine à imaginer, à dire, un documentaire, un film, c'est un objet cinématographique non identifiable, et c'est très bien comme ça, ça s'appelle Irradié.
Un monde, la cinéaste belge Laura Vandel. Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Elle est tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer, et son frère qui lui demande de garder le silence. Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté, bien sûr. À l'origine, il y a le doc passionnant de Claire Simon, Récréation, certes en 93. Laura Vandel, elle en fait une fiction en se rapprochant de ce personnage, et à travers les paroles et les actes, et puis en l'occurrence le harcèlement, les enjeux terribles de cette cour de récréation, première école de la ville, les deux enfants tous les jours qui partent au charbon, deux jeunes acteurs, non acteurs d'ailleurs admirables, chaque scène leur était décrite, à eux de la jouer à la sauce de leur ressenti, un instant volé à la vraie vie. Moi, je trouve que le résultat est saisissant.
Oui, j'ai un peu plus de réserve parce que le côté performatif, au bout d'un moment, m'a laissé un petit peu de marbre. C'est-à-dire qu'on est immergé totalement, avec par exemple comme un procédé qui est que plus Nora gagne en maturité, plus elle s'affirme, plus le flou des images physiquement qui l'entourent s'efface. Bon. On a compris de quoi il s'agit, on a compris le discours. Et au fond, moi, ce qui me semble un petit peu contestable, enfin, ce qui, moi, me pose problème, c'est que au bout du compte, mais et vous venez de le résumer très bien, je trouve, on a quand même une vision de l'enfance qui est unilatérale, sombre, noire, oui. violente, brutale. Oui. On a envie de dire, heureusement que c'est pas que ça. Non. Heureusement qu'il y a une autre enfance, un autre état d'enfance qui est à côté de l'état de violence, bien entendu, mais qui est plus poreux, plus affectif, plus transporté aussi par les autres. Je trouve que tout ça devient extrême, un objet très 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 fermé et fait de l'enfance. Alors vraiment un moment terrible si ça n'est que ça.
C'est comme si on disait que le film de Roquentin excluait les bons tweets. Vous voyez
non,
ce que
c'est
vous
plus compliqué que ça parce que l'état de l'enfance, c'est l'état de l'enfance. Voilà. Mais bon écoutez, vous allez-y, oui. faites-vous votre idée.
L'ennemi du réalisateur Stéphane Strecker, un célèbre homme politique, est accusé d'avoir tué son épouse retrouvée morte une nuit dans leur chambre d'hôtel. Est-il coupable ou innocent? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus. C'est quoi ce pitch?
C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression qu'on vient d'avoir vu un petit peu un nombre de fois incalculable ce genre de film et de scénario. Alors là, c'est tiré d'un fait divers, oui. ce qui rend encore plus dubitatif pour ma part, parce que si véritablement le héros entre guillemets, le protagoniste du fait divers était un homme politique très important en Belgique, la façon dont il est rendu sous les traits d'un Jérémy Régnier, dont le côté capillaire là. Un énorme problème, une espèce de crête d'Iroquois sur la tête à peu près la moitié du film. Donc là, on se dit, non, un homme politique de premier plan, non, c'est pas possible. Et c'est pas possible qu'il se comporte comme ça socialement, et c'est pas possible qu'il se comporte comme ça dans des palaces, etc. Donc il y a une invraisemblance du personnage principal qui empêche, mais alors vraiment toute adhésion à l'histoire. On le regarde avec amusement, mais sans plus. Et vraiment, les ficelles sont extrêmement grosses.
Une jeune fille qui va bien, c'est la première réalisation d'une actrice, Sandrine Kiberlin. Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 42. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de la jeunesse. Filmer la guerre, Laurent sans la montrer, et la jeunesse dans toutes ses espérances, c'est une belle idée, un grand pari, ce hors-champ historique, mais à force d'atténuer... Le Paris tient-il la route?
Eh ben non, je suis assez d'accord. On apprend très tard qu'on est en 1942. Oui. Alors on joue, Kiberlin joue sur ce, je ne vais pas dire un suspense, non. mais joue sur cette ambiguïté, cette idée qu'on ne sait pas très bien à quelle époque c'est. Alors on joue pas trop sur la reconstitution. Il y a une reconstitution minimaliste qui s'opposerait, qui devrait s'opposer, c'est le propos de Kiberlin, on le voit, à la violence et des sentiments, et bien plus encore évidemment de l'époque, puisque ce qui rôde, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est l'Holocauste, etc. Donc la tension est là, le propos est là, mais je trouve qu'elle le dynamite elle-même, par exemple en mettant un morceau de musique très très contemporaine, Métronomie, sur une scène très longue, scène de baiser entre les deux jeunes protagonistes. Là, tout d'un coup, il y a une espèce de construction très artificielle qui est mise en place. Je trouve que Kiberlin, avec un pari très audacieux de départ, ne le réussit pas. Voilà.
Sunless Shadow, c'est un documentaire de Merdad Oueski dans un centre de détention, Laurent, des adolescentes se livrent devant sa caméra.
Ouais, décidément, les nouvelles de l'Iran cinématographique sont pas très réjouissantes. Après Razoulov, là, on est dans un documentaire, le centre de détention d'un groupe de meurtrières. Elles ont tué leur mari, leur père, ou leur beau-frère, ou leur beau-père. Elles se confessent face caméra sur ce qui les a poussées à faire ça, sur le patriarcat dominant, parce qu'évidemment, ce sont des maris ou des fils ou des frères. Elles sont battues, elles sont humiliées, elles sont violées. Enfin, elles ont toute raison d'essayer de faire cesser cette espèce de massacre des innocentes. Et la façon dont le cinéaste, à la fois tend sa caméra et son micro, et puis les interviews aussi, c'est absolument magnifique, absolument poignant, avec en plus, dans une espèce de hors-champ, la certitude qu'il y a ailleurs les mères de ces jeunes femmes qui sont, elles, emprisonnées, parce qu'elles sont amalgamées à la peine, et qu'elles risquent toute la peine de mort.
Très vite, ce qu'on a largement évoqué la semaine dernière, c'est les promesses de Thomas Krutoff, oui. Formidable film avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, et puis bien sûr, cette expérience étonnante de municipal de Thomas Polo, cet acteur qui est plongé dans une vraie élection municipale, des reprises, alors Joseph Losez, The Servant, Dirk Bogarde, bien sûr, absolument. Énorme.
Et deux Antonioni, sinon rien, Chronique d'un amour et Le désert rouge.
Un festival à Vesoul, Laurent.
Oui, nous irons à Vesoul du 1er au 8 février prochain. C'est la 28e édition du Festival international des cinémas d'Asie à Vesoul, donc avec 9 longs métrages en compétition, des documentaires, un hommage à Fukada, un regard sur les cinémas de la route de la soie. C'est un très beau festival consacré à l'Asie.
Laurent Cointet, je suppose que vous êtes très alerté par cette question de la clé, le dernier cinéma associatif d'arrêt d'essai de Paris, officiellement fermé depuis le printemps, et une lutte depuis de 2 ans face à une expulsion qui devrait intervenir à lundi ou mardi prochain. Le cinéma est en continu, ouvert de 6h du matin à 23h. Les films défilent. Ce qui est beau, c'est au guichet, prix libre pour qu'on puisse donner la somme qu'on a envie de donner pour soutenir ce cinéma.
Oui, un cinéma qui d'ailleurs fait la preuve que qu'il peut continuer à vivre comme ça depuis absolument 2 ans maintenant,
oui.
Et auquel d'ailleurs beaucoup de cinéastes sont suffisamment attachés pour participer à cette lutte. Et je pense que je vais aller y faire un tour.
Voilà,
très bientôt,
amis parisiens, si vous voulez y aller ce week-end, il est 34 rue de Bonton, ça s'appelle La Clé.
Il ne faut pas fermer La Clé.
Non, Laurent, voilà. Les cadeaux.
Les cadeaux, tout de suite. Pour Laurent Cointet, Dillinger est mort. Un film de Marco Ferreri, 1969, c'est vraiment un film de son époque. C'est chez Tamasa, un très beau combo Blu-ray DVD. Cette fable sociale contestataire avec Piccoli et Girardot n'a rien perdu d'une certaine force sociale, de toute évidence. Pour vous, Dominique Cardon, vous, le sociologue, on vous offre Sexe, mensonges et vidéos qui vient d'être ressorti par l'Atelier des images. Palme d'or en 1989. Hein, un très beau film de Soderbergh avec, là, des heures de bonus incroyables et notamment, ce qui est toujours très très précieux, le commentaire audio du film par son auteur. Et puis pour vous, Yéyé, chez Potemkin, Paris nous appartient, vous la parisienne venue de Chine, de ce film de Jacques Rivette dont Truffaut disait c'est le plus cinéphile d'entre nous, et son film prouve qu'il est le plus cinéaste d'entre nous.
Merci Yéyé, merci Laurent Cointet, merci Dominique Cardon, les deux films Arthur Rimbaud et H6, merci Claire Destacan et merci Laurent Thomas pour avoir réalisé l'émission, merci à Christophe Majer de l'avoir préparé et à Thierry Dupin pour la programmation musicale, au revoir.